Bonjour à chacun et à chacune aussi. Alors, est-ce qu'il y a des gens ce matin parmi nous qui, en quittant leur maison, se sont dit qu'ils n'allaient peut-être jamais y retourner ? Je suis sûr que personne d'entre nous, en entrant dans cette chapelle, s'est dit qu'il allait peut-être ne pas en sortir un peu après 11h30 comme d'habitude. Et pourtant, conceptuellement, nous savons tous que notre vie est fragile et qu'à n'importe quel moment, nous pouvons y laisser notre peau. Alors, il n'y a pas que notre vie qui est fragile. Ces derniers temps, on commence à se rendre de plus en plus compte que cette Terre, cette bonne vieille planète sur laquelle nous vivons, est aussi fragile et que ses ressources ne sont pas inépuisables. Pas non plus besoin d'être chrétien pour croire en la fin du monde. Les Mayas nous l'auraient même prédite pour cette année, le 21 décembre. Mais la Bible nous dit que ça peut arriver à n'importe quel moment et que l'on ne peut pas savoir à l'avance. Bon, j'arrête là. Vous allez finir par croire que je cherche à vous faire peur. C'est une technique marketing très répandue. Mais ce n'est pas du tout mon objectif. D'une part, le chrétien ne devrait pas avoir peur de la mort. Et en plus, moi, je n'ai rien à vous vendre, donc je n'ai pas de raison d'user de cette méthode-là. Mon seul objectif ce matin, c'est de nous aider à voir la vie autrement. Autrement que ce qui nous semble naturel, que ce qui est humain. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième semaine de notre campagne Crazy Love, autour du livre de Francis Chan. Vous avez vu et revu cette image depuis longtemps qu'on en parle. On est dedans. L'objectif de ce livre est de nous aider à prendre conscience d'à quel point l'amour de Dieu est quelque chose d'énorme, de fou. Et que ça, ça doit changer notre manière de vivre. En fait, ce livre n'a pas grand-chose d'original à nous apporter. Il ne fait que souligner quelques vérités bibliques qui sont suffisamment claires dans la Bible. Mais ce n'est pas pour vous, moi je préfère revoir de bonnes vieilles vérités solides que de nouvelles erreurs qui seraient originales peut-être. En fait, ce livre résulte de la préoccupation de son auteur concernant l'Église du XXIe siècle et surtout dans le monde occidental. Ce livre et toute cette campagne qui va nous conduire jusqu'à Noël a pour but qu'on remette nos pendules à l'heure. On va bientôt devoir changer les pendules parce qu'on va repasser à l'heure d'hiver, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Comme Manu nous l'a très clairement dit dimanche dernier dans son message, le but n'est pas de nous redonner une nouvelle liste de choses à faire ou à ne pas faire pour être de meilleurs chrétiens. Le but est de changer notre vision de la vie, de changer notre vie, la vie chrétienne, la vie sur Terre en général. Et la clé qui conduit à ce changement de vision, c'est notre conscience de Dieu. Manu nous a lu et commenté une vision du prophète Ésaïe qui se retrouvait complètement bouche bée devant la présence de Dieu, tellement celle-ci est impressionnante. Pourtant, il nous faut absolument regarder à lui, non pas que ce soit facile ou même vraiment possible de le faire, mais parce que tout le reste découle de notre conscience de Dieu et de son amour. Et comme le dit le titre du livre, cet amour est fou, irrésistible. Alors mon propos ce matin va s'articuler autour de trois grandes idées. Le premier, c'est que la vie est fragile. Le deuxième, on va se poser la question de ce qui est vraiment important dans la vie. Et enfin, qu'est-ce qui peut changer ma vie ? Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie ? La vie est fragile. Comme nous l'avons évoqué dès le début, elle peut se terminer à n'importe quel moment. Maladie, accident, guerre, attentat, meurtre, arrêt cardiaque, etc. Il suffit d'écouter et regarder les infos tous les jours pour en avoir d'innombrables exemples. Et encore, c'est loin d'être représentatif de tout ce qui peut se passer dans le monde. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre plus sur ce point, tellement c'est une évidence. Et pourtant, malgré tout ça, nous pensons avoir la vie devant nous. Les progrès de la science et de la médecine nous permettent d'espérer vivre en moyenne 78 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes, du moins en France. Tout notre système financier est construit sur le principe que l'on va continuer à vivre suffisamment longtemps pour rembourser nos dettes. Bon, ce présupposé est parfois modulé par le fait que, au cas où, on va quand même prendre des assurances, des garanties. Mais toujours est-il que ça nous paraît normal, à quelques exceptions près, de continuer à vivre. Et inversement, la mort nous paraît anormale, nous paraît toujours comme une erreur. Quand quelqu'un part, c'est toujours trop tôt, n'est-ce pas ? Il y a un autre point qui ne va pas souvent dans notre vision de la vie, c'est qu'on la voit seulement à travers les lunettes de notre propre expérience, de notre vie, de notre cadre spatio-temporel. Alors je me suis amusé à faire une petite frise pour voir un peu ce que représentait la durée d'une vie humaine. Alors j'ai pris 80 ans. Alors la frise tout en haut, ça représente ce que représente 80 ans sur 2000 ans, donc depuis, on va dire, l'ère chrétienne. Et ensuite, j'ai voulu voir ce que ça représentait à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors j'ai pris plusieurs hypothèses, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais on voit que ça représente une toute petite part de l'histoire de l'humanité. On peut aussi faire l'exercice d'un point de vue géographique, de prendre une personne quelque part sur un point du globe et de dézoomer, dézoomer, dézoomer. Finalement, on est tout petit. On ne représente pas grand-chose à l'histoire de l'humanité, dans l'échelle de l'humanité. Francis Chan, l'auteur du livre, donne l'illustration de quelqu'un qui est figurant dans un film, qui n'apparaît que quelques secondes parmi plein d'autres figurants. Pour lui, ces quelques secondes sont super importantes. C'est à ça qu'il va penser en premier. « Regardez, j'étais là dans le film !» Mais pour l'histoire du film, ces quelques secondes sont insignifiantes. Tout cela est une invitation à nous concentrer plutôt sur l'acteur principal du film de la vie. Je vous invite à lire ensemble quelques versets de l'épître de Jacques. On les a déjà lus tout à l'heure, mais ça ne nous fera pas de mal de les relire. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Alors quand on parle au futur, on présuppose que ce futur va exister, que le sujet de notre phrase vivra encore à l'époque donnée. Si je prends un exemple, si je dis « cet hiver, j'irai en vacances à la montagne », je présuppose que je serai encore vivant cet hiver. Mais en fait, ça ne m'appartient pas. Il y a quelque chose de présomptueux dans l'utilisation du temps futur. Ce serait déjà plus juste de dire « si Dieu le veut ». Les musulmans sont tenus d'employer plus ou moins systématiquement l'expression « Inch'Allah » quand ils parlent au futur. Alors c'est sûr que dans la pratique, c'est pas très commode, mais je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça nous aide à réaliser à quel point l'avenir est entre les mains de Dieu et qu'on le reconnaît. On va prendre une autre histoire que Jésus raconte pour illustrer la fragilité de la vie et d'illustrer la vanité de nos projets. Donc c'est dans l'évangile de Luc. Jésus leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire ? » se demandait-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah !» se dit-il enfin. « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé, tous mes autres biens. » Après quoi je pourrais dire « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit « Pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? Voilà quel sera le sort de l'homme, de tout homme, qui amasse des richesses pour lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Et en fait, la conclusion de ce passage, elle était donnée dans le verset qui précédait. « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Alors le but de ces deux textes n'est pas de nous dissuader de faire des projets. Qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension entre nous, ce n'est pas mal de faire des projets, bien sûr. Mais ce qui est mauvais, c'est une attitude présomptueuse qui ne se soucient pas de Dieu. Et c'est mauvais aussi de vivre dans l'illusion qu'on maîtrise notre destin. C'est vraiment orgueilleux. Au contraire, nous avons besoin d'être humbles et soumis devant Dieu. Bon, revenons à notre histoire de fin du monde. Est-ce que ce serait possible que notre monde s'arrête en 2012, comme on n'arrête pas de nous le rabâcher dans les médias? Alors, d'un point de vue chrétien, oui, bien sûr, c'est possible. Voici les mises en garde que Jésus avait laissées à ses disciples à l'époque, dans l'évangile de Marc. Quant au jour ou à l'heure, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Seul le Père le sait. Soyez vigilants, restez sur vos gardes, puisque vous ne savez pas quand viendra le moment. On peut se dire que si c'était déjà possible à l'époque de Jésus, à combien plus forte raison ça pourrait être possible aujourd'hui. Mais encore une fois, on ne sait pas quand, donc restons vigilants à chaque moment. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est vraiment préoccupé par le retour de Christ? Si ça arrive aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Alors on va faire un petit test. Quel sentiment vous inspire l'idée d'un retour de Christ imminent? Si on vous dit « Jésus revient demain », quel effet ça vous fait? Est-ce que ça vous remplit de joie? Ça y est, enfin, il revient! Enfin la fin des souffrances, des douleurs, de l'injustice. Au contraire, est-ce que ça vous rend triste? Il y avait tellement de choses que je voulais faire encore ici, où je voulais profiter encore de tout ça sur cette terre. Peut-être que ce n'est pas aussi radical dans un sens ou dans l'autre, c'est peut-être un peu mitigé pour les deux, mais si on est dans ce deuxième cas, est-ce que le problème, ce n'est pas qu'on accorde une importance trop grande à ce qui est dans notre vie sur terre? Et à l'inverse, est-ce qu'on accorde une trop faible importance à l'éternité, qui est pourtant tellement plus vaste? Seigneur, apprends-nous à accorder une juste importance à la vie sur terre et à l'éternité, à rechercher par-dessus tout l'avancement de ton règne. Alors, venons-en maintenant à notre deuxième question, notre deuxième point. Qu'est-ce qui est vraiment important? Il faut être conscient que l'importance que l'on accorde aux choses va avoir un impact direct sur notre manière de vivre. D'où l'intérêt de bien y réfléchir. Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes stressé, comme ces deux personnes qu'on voit ici? Si c'est le cas, j'aimerais simplement nous aider à prendre conscience que cette inquiétude et ce stress sont probablement des symptômes d'un problème d'estimation, de jugement, de l'importance que certaines choses ont dans notre vie. Dans la lettre de Paul aux Philippiens, on peut lire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ici, les inquiétudes ne sont pas décrites comme quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qu'on ne pourrait que subir. Si Paul dit « ne vous inquiétez de rien » comme un ordre, c'est qu'on doit bien avoir un levier d'action sur nos inquiétudes. On a peut-être un petit pouvoir là-dessus. Ce moyen, c'est de nous décharger sur Dieu du poids de ce qui cause ces inquiétudes. De même, comme l'explique Francis Chan dans le livre, dans ce chapitre 2 que nous allons lire ou relire cette semaine, quand on est stressé, quelque part, on communique l'idée que ces choses qui nous stressent sont trop importantes pour qu'on puisse les remettre à Dieu. Sont trop compliquées pour lui, peut-être. Ou peut-être qu'on croit qu'on peut se débrouiller par nous-mêmes. Mais ça, ce ne serait pas de l'orgueil? Peut-être accordons-nous trop d'importance à nos objectifs sans nous demander s'ils viennent vraiment de Dieu. Est-ce qu'on a le désir de se débrouiller par nous-mêmes? On est assez grand pour gérer tout ça par nous-mêmes? Bon, tout ça c'est bien beau, c'est des belles idées, ça manque un peu de concret quand même. Alors je vais vous donner un cas concret, celui de ma propre vie. Quand j'étais au lycée, j'étais quelqu'un de très stressé, de rongé par mes inquiétudes, anxieux pour l'avenir. J'étais complètement obsédé par des questions du type « qu'est-ce que je veux faire plus tard comme étude, comme métier, où est-ce que je vais vivre, est-ce que je vais réussir ma vie ?» C'est des questions qu'on se pose tous, surtout quand on est jeune. Et pour moi, c'était vraiment une obsession terrible qui me mettait une pression, qui me faisait souffrir quotidiennement. Et je passais mon temps à travailler pour mes études, mais ce n'était pas très efficace en fait. Mes résultats n'étaient pas à la hauteur de mes ambitions. Mais entre la première et la terminale, j'avais 17 ans, j'ai eu une véritable révélation en étudiant un passage de la Bible. On va le lire ensemble, même si Christian l'a déjà évoqué tout à l'heure. C'est dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi je vous dis, donc c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez-vous à ce sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser les vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous ? » Avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. Mais votre Père qui est dans les cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'étais donc en train d'étudier ce texte dans le cadre d'un camp. On faisait des études bibliques. Et on nous demandait simplement de faire un dessin pour illustrer ce qui était dans ce texte. Alors, on va vous montrer ce dessin. Alors, c'est vraiment le dessin original. C'est pas très lisible, c'est pas très artistique. Mais moi, c'est en faisant ce dessin que j'ai eu cette révélation, ce tilt. Alors, à gauche, on peut voir un homme qui travaille dur dans les champs. En plus, le soleil tape, donc il doit bien transpirer. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire, mais les différentes rangées de son champ, c'est habits, boissons, nourriture, argent. Plein de choses qu'il travaille, et donc il y travaille. Et à droite, on a un autre homme, on dirait un randonneur, qui marche sur un chemin. Alors on voit peut-être pas, mais sur le panneau là-bas, il y a marqué « Royaume de Dieu ». Donc il marche sur le chemin, il cherche le royaume de Dieu. Et au passage, alors les petits bonhommes qu'on voit sur la gauche du chemin, c'est des gens qui le ravitaillent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des marathons ou d'autres courses, il y a des ravitaillements. Alors peut-être que c'est plus clair sur l'image suivante qui vient. Donc il y a un ravitaillement où les gens qui donnent à boire ou à manger. Et donc ces gens-là, ils ont aussi besoin de manger, mais ils ne sont pas en train de travailler tout le temps. Ils peuvent se permettre de faire cet autre effort, cette autre activité, et ils mangent quand même. Je me suis dit, oh quand même, c'est fort. Et je me suis rendu compte que ma vie, elle ressemblait un peu à cet homme qui travaillait dur dans son champ, qui se préoccupait que de savoir ce qu'il allait manger, de ce qu'il allait boire, etc. Je me suis dit, et souvent c'est une fausse excuse pour moi de dire bah, « Seigneur, je ne peux pas trop m'occuper de tes affaires, tu vois, j'ai pas trop le temps, d'abord il faut que j'assure mes arrières, il faut que je réussisse mes études. » Je me suis senti repris. Dieu m'a dit « Mais tout ça, je m'en occupe, je vais te le donner, occupe-toi de mes affaires et moi je m'occuperai des tiennes. » Et alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé suite à cette révélation? Quand je suis retourné au lycée en terminale, j'ai vraiment appris à faire confiance en Dieu. Alors, c'est pas que j'ai arrêté de travailler, hein. Je vais pas prêcher la flémardise, mais c'était pas du tout de la même manière, pas avec la même obsession. C'était en faisant confiance à Dieu que lui s'occupait des résultats. Moi, je faisais mes petits efforts dans mon coin, mais sans obsession. Je me permettais même d'arrêter de bosser le week-end ou certains soirs, par exemple pour préparer des études bibliques dans mon club biblique au lycée ou dans les groupes de jeunes. Ces choses-là, avant, j'étais plus réticent à faire parce que j'étais en train de perdre quelques précieuses heures de travail qui me pénaliseraient dans mes études. Non, j'avais changé d'état d'esprit. Et j'étais beaucoup plus libre. Et le comble de tout cela, c'est qu'en plus, mes résultats s'amélioraient. Et là, je me suis dit, bon, Seigneur, là, c'est un beau clin d'œil. Tu veux que je te fasse confiance ? J'ai compris le message. Ça vaut le coup de faire confiance en Dieu. Il nous donne une paix immédiate et durable. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si on se préoccupe plus des affaires de Dieu, nos demandes changent, et les réponses aussi, d'ailleurs. Si on regarde dans les psaumes, ce verset qui dit... Ah, j'ai oublié un truc, donc ça va faire bizarre dans le PowerPoint. Il y a une autre question qui est importante, que j'aimerais bien qu'on se pose, qui illustre un peu quelle devrait être notre préoccupation en tant que chrétien. On devrait plus poser la première question qui est « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, demain, plus tard ? Qu'est-ce que je vais devenir ?» Mais la question qui doit vraiment plus résumer notre préoccupation, c'est « Comment faire en sorte que Dieu prenne plus de place dans ma vie et dans celle des autres ?» Quoi que ce soit qu'on fasse, on devrait plus se poser cette deuxième question que la première. Alors, on arrive à notre verset dans les psaumes qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Un autre verset un peu du même genre qui est dans les évangiles, l'évangile de Jean, c'est Jésus qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Waouh ! Ça a l'air facile, ça. C'est encore mieux que la lettre au Père Noël. Mais ce qui est important, c'est que il y a un préalable à demander et recevoir tout ce qu'on désire. C'est qu'avant de demander ça, la condition c'est que justement nos désirs aient changé, notre cœur ait changé. On ne se retrouve plus comme un enfant devant sa lettre au Père Noël. Cher Père Noël, j'aimerais avoir la nouvelle déesse, l'arbre de Tarzan, un déguisement de Spider-Man et le ballon de foot officiel de l'équipe de France. Ce n'est plus trop les mêmes demandes qu'on fait. Le préalable à ce que ça marche, entre guillemets, c'est que Dieu ait changé notre cœur. Qu'on ait fait de l'Éternel nos délices, et qu'on demeure en Christ, et que ses paroles demeurent en nous. Et là, vous voyez l'importance de voir la vie autrement. C'est vraiment notre manière de voir la vie qui va changer. Alors, nous arrivons maintenant à la troisième grande idée. Qu'est-ce qui peut changer dans ma vie ? Qu'est-ce qui peut changer ma vie ? On s'est rappelé d'une part que la vie est fragile. Nous avons vu qu'il faut veiller à ne pas accorder trop d'importance à certaines choses, mais accorder plus d'importance au royaume de Dieu. Et qu'est-ce qui peut changer ma vie ? La première chose que j'aimerais qu'on voit ensemble, et qui me paraît primordiale, c'est de se préoccuper de ce qui va nous arriver après la mort. Peut-être si vous voulez creuser la question, j'ai vu qu'il y a l'étude sur les fondements samedi à ce sujet-là, donc n'hésitez vraiment pas à venir. Alors je sais que c'est jamais agréable de penser à la mort ou ce qui va se passer après, et pourtant c'est important. On ne peut pas garder ce sujet tabou. Il faut s'en préoccuper. Et la Bible dit très clairement qu'il y a deux options. La vie éternelle ou la mort spirituelle. Vivre dans une paix parfaite, sans souffrance, réconcilié avec notre Créateur, ou au contraire, être rongé de remords, plongé dans nos souffrances, dans des souffrances atroces et éternelles, vous vous rendez compte ? Séparé de Dieu. Or, il faut être conscient que par défaut, tous les hommes, et les femmes aussi bien sûr, sont voués à vivre l'éternité loin de Dieu dans la souffrance. C'est la conséquence de notre nature pécheresse. La Bible est très claire là-dessus, et si on prend l'épître de Paul aux Romains, il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ou plus loin, car le salaire du péché, c'est la mort. Voici le verdict qui est ce qui attend tout homme par défaut. Mais Dieu ne veut pas nous laisser à ce triste sort et il veut nous donner une autre option possible, une autre issue. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais contrairement à la première option, cette hypothèse-là n'est pas automatique, elle n'est pas par défaut. Elle demande notre adhésion. Et voilà en quoi peut se résumer notre adhésion. La première chose, c'est de reconnaître le verdict, dire oui, je suis pécheur, je suis perdu sans Dieu. La deuxième chose, c'est de se repentir sincèrement. Je regrette mon attitude, je veux changer de vie. La troisième chose, c'est de croire en la grâce et le pardon de Dieu en Christ. Je crois que Dieu, et lui seul, peut me tirer de là. Je ne peux rien faire tout seul. Et la quatrième chose importante, c'est s'engager dans une nouvelle vie. J'accepte de ne plus être le seul maître à bord, mais de laisser Dieu me transformer par le Saint-Esprit. Mes objectifs ont changé. Alors, tout cela, ça résume ce qu'on appelle l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et mes amis, il n'y a pas à tergiverser. Il n'y a pas 36 possibilités. En fait, c'est très simple. La Bible nous dit qu'il faut choisir entre la vie et la mort. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de trucage. Et la plus grosse erreur, ce serait de se dire, bon, c'est bien beau tout ça, mais j'ai le temps. J'ai la vie devant moi, je suis encore jeune. Je pense à une anecdote que Jean-Paul nous avait racontée, je crois que c'était cet été. Il nous avait dit qu'il avait été invité comme orateur à un rassemblement de jeunes, je crois que c'était à Paris. Il avait expliqué l'Évangile, et à la fin, il y a notamment une jeune fille qui était venue le voir, qui lui a dit « Bon, c'est bien, mais je suis jeune, je veux profiter de la vie, je verrai ça plus tard. » Et après coup, il a appris que cette fille n'est jamais rentrée vivante chez elle. Quel gâchis. Pourtant, elle était avertie, elle savait tout ce qui... Elle savait de quoi il retournait. Quelle inconscience de reporter ça à plus tard. Je vous en supplie, mes amis, ne faites pas cette même erreur. Si vous êtes dans ce cas, que vous savez que vous n'avez pas choisi cette deuxième option, que vous n'avez pas reconnu que vous êtes pécheur, que vous n'êtes pas repenti, que vous ne croyez pas en la grâce et le pardon de Dieu, que vous n'êtes pas prêt à vous engager dans cette nouvelle vie, mes amis, je vous en supplie, ne reportez pas à plus tard ce choix. C'est dès aujourd'hui qu'il faut s'en inquiéter. Et entre nous, il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir dans le sens où vous perdez vraiment rien. Souvent, les gens croient que bon, il y a des avantages et des inconvénients et c'est contraignant de donner sa vie à Dieu. Mais quand on regarde toute la paix qu'il nous donne dès le début, ça vaut vraiment le coup. Alors dans un autre registre, il y a un deuxième point que je vous propose comme idée qui peut changer dans notre vie si on voit la vie autrement. C'est la manière dont on gère notre vie. Alors j'ai relevé deux aspects en particulier, notre budget, notre emploi du temps, mais en fait c'est plus général que ça. Et la question c'est, si je suis chrétien et que rechercher le royaume de Dieu est une préoccupation principale pour moi dans ma vie, dans quelle mesure ça se retrouve concrètement dans la manière dont je gère ma vie. Donc gérer la vie, bien sûr, c'est l'argent et le temps, mais ça peut aussi être nos relations, notre carrière, on gère aussi notre image. Il y a plein de choses qu'on peut gérer dans notre vie. Comment nos priorités transparaissent là-dedans? Alors on va regarder dans un premier temps le cas de nos finances. Qu'est-ce qui traduit que le royaume de Dieu est la priorité dans notre vie, dans nos finances? Alors, quand on gère notre budget, une fois qu'on a identifié les charges incompressibles, à quoi sert l'argent qui reste, pour peu qu'il y en ait? Qu'est-ce qui est prioritaire? Nos loisirs, notre confort, notre sécurité, même si ces choses sont bonnes? Ou l'Église, ou d'autres œuvres et missions, ou la charité, ou prendre soin de mon prochain? Et encore, là je parlais que des charges, enfin ce qui restait après les charges incompressibles, mais si on réfléchit même à ces soi-disant charges incompressibles, il faut être conscient que celle-ci découle en partie de choix qu'on a pu faire liés à notre niveau de vie. La question qu'on peut se poser, c'est dans le niveau de vie que j'ai choisi, dans quelle mesure j'ai intégré cette préoccupation de chercher le royaume de Dieu avant tout. Je ne vais pas développer plus cet aspect-là, je pense que chacun peut réfléchir pour lui-même là-dessus. À propos de l'emploi du temps, à quoi consacrons-nous notre temps libre? Sommes-nous obnubilés par nos loisirs, nos passions? Ou consacrons-nous suffisamment de temps à Dieu? Avons-nous du temps pour les autres? Pareil, c'est quoi la notion de temps libre en fait? C'est qu'il y a du temps pas libre, des choses qu'on n'a pas le choix qu'on doit faire effectivement, des obligations professionnelles, familiales, l'entretien de la maison, etc., des contraintes médicales, effectivement il y a plein de choses qu'on ne choisit pas a priori. Mais quand on regarde un peu plus loin, on peut se dire que même dans ces choses qu'on ne choisit pas, ça découle peut-être aussi de choix qu'on a pu faire dans le passé. Par exemple, si je suis débordé dans mon métier, c'est que j'ai choisi un métier qui était très prenant. Et on peut faire plein d'autres hypothèses comme ça. La question, c'est vraiment au moment où vous faites des décisions importantes dans votre vie, au moment où nous faisons des décisions importantes pour notre vie, est-ce qu'on pense à cette question du royaume de Dieu ? Est-ce qu'on se dit, mais est-ce que j'aurai suffisamment de temps ? Est-ce que je pourrai m'occuper de ce qui concerne, de ce que le Seigneur attend de moi, on va dire ? Alors, je vais m'arrêter là sur ces aspects-là, et je ne voudrais pas que ces choses, que ces questions vous attristent ou vous remettent en question, ce n'est pas du tout le but. Hein. On ne veut pas être dans une attitude de jugement, on ne veut pas commencer à regarder les uns les autres, de se comparer, ça ce serait vraiment dramatique, on ne veut vraiment pas rentrer là-dedans. Mais simplement, le but c'est qu'on puisse se poser les bonnes questions, concrètement, dans notre vie de tous les jours. Le but c'est que quoi qu'on fasse dans notre vie, serve à glorifier Dieu. En fait, la vie chrétienne, tout ce qui est dans notre vie, même les choses ingrates, elles peuvent servir à glorifier Dieu. Alors ça, on le retrouve dans des exhortations de l'apôtre Paul aux Colossiens, on va lire ensemble. Tout ce que vous faites, en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Et plus loin, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Je vais donc conclure maintenant. Le but de toute l'exhortation de ce matin, et ce sur quoi nous allons continuer à réfléchir toute cette semaine en fait, c'est de chercher à voir la vie comme Dieu la voit et comme il voudrait que nous la voyons. Chercher à mener une vie qui fasse plaisir à Dieu. Alors ce qu'il faut retenir en particulier, c'est le contexte, que notre vie est fragile, que nous devons accorder moins d'importance à ce qui nous inquiète, mais au contraire nous préoccuper plus du royaume de Dieu. Et ce qui découle directement de ces choses-là, la première, c'est de ne pas remettre à plus tard le choix d'accepter le salut de Dieu, et que toutes nos décisions et actions soient influencées par notre préoccupation de rechercher le royaume de Dieu. Alors ça, j'imagine que ça suscite des questions, des réactions, vous avez besoin peut-être d'en discuter, ce sera le cas dans les groupes de maison, on pourra discuter de ces choses-là. Peut-être que vous voulez aussi en parler avec un pasteur ou un responsable. N'attendez pas et venez trouver un des responsables après le culte si vous avez besoin de discuter de ces choses-là. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite à incliner vos têtes et on va prier pour finir. Seigneur, merci pour le merveilleux cadeau de la vie que tu nous as fait. Cette vie sur terre est précieuse, mais elle est aussi fragile. Merci parce que tu veux aussi nous donner la vie éternelle. Seigneur, je te prie que ce matin, personne parmi nous ne se prive de cette vie-là, que personne ne reste dans l'esclavage du péché. Seigneur, merci aussi parce que tu prends nos fardeaux et tu nous soulages. Merci parce que j'ai pu en faire l'expérience. Seigneur, tu sais que plusieurs d'entre nous sont accablés par des fardeaux plus ou moins lourds. Je te prie pour que nous te laissions tous nos fardeaux, que tu nous y aides, que nous te laissions vraiment entièrement les porter. Seigneur, je te prie aussi pour que la préoccupation de chercher ton royaume et ta justice soit une réelle préoccupation quotidienne pour chacun d'entre nous. Et que tu nous aides à ce que ça ne reste pas au niveau de notre bonne volonté, mais que ça se traduise concrètement dans nos faits et gestes. Seigneur, merci pour la paix et la joie que tu mets dans mon cœur. Je veux voir ton règne se répandre sur cette église, sur ce pays, sur toute la terre. À toi la gloire, Seigneur. Amen.